Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, vous écoutez Graphite sur 94.9 et graphite.net. Je suis Stéphane Poinsard, en direct du studio avec 4 étudiants de l'Université Technologique de Compiègne, Gaspard, Aurélie, Léna et Alice. On se retrouve pour des émissions autour du cours WE1 « Questionner le web » de l'Université Technologique de Compiègne. Les étudiantes et étudiantes viennent y présenter le résultat de leur recherche du semestre, articulée autour de questions sociotechniques portant sur le web. En WE1, nous abordons les thématiques de l'histoire du web, du capitalisme de surveillance, des logiciels libres, du web décentralisé. On voit aussi les techniques et méthodes d'écriture et de lecture scientifique. On découvre le fonctionnement d'Internet. Vous aussi, vous pouvez découvrir ces cours sur le site librecours.net. On commence pour la première intervention avec la question « Laisserons-nous nos données aux entreprises américaines et à l'État chinois ?» Et je passe la parole à Gaspard et Aurélie pour nous en dire plus.
Bonjour à tous. Le sujet de notre podcast est la surveillance d'État par la collecte de données en lien avec le cours de WE1. À l'ère du numérique, les technologies comme les objets connectés ou l'intelligence artificielle se développent rapidement. Les données qu'elles produisent sont devenues une ressource économique centrale au cœur du big data, un marché dominé par les GAFAM, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Chaque activité numérique, navigation sur Internet, utilisation d'applications, objets connectés, caméras de surveillance génèrent de l'information. Les GAFAM collectent ces données par différents moyens, cookies, analyse du temps passé, vitesse de frappe, etc. Ils proposent aussi des SDK, Software Development Kits, outils gratuits pour les développeurs de sites et d'applications qui, en retour, transmettent les données de leurs utilisateurs aux GAFAM. De plus, les pisteurs sur les sites et applications ne sont pas indépendants. Les utilisateurs sont suivis à la fois par un identifiant unique généré par les cookies et par l'identifiant publicitaire unique géré par notre smartphone. Or, celui-ci centralise de nombreuses données sensibles et difficiles à obtenir autrement, telles que les habitudes de consommation, les données cardiaques, les opinions publiques, etc.
Des algorithmes de plus en plus puissants sont développés afin de collecter et de traiter ces données. Or, bien que les GAFAM en concentrent l'essentiel, elles sont ensuite revendues à d'autres entreprises sur le marché du big data afin de cerner le profil de chaque utilisateur et réaliser des prédictions, principalement utilisées à des fins publicitaires. On entre alors dans une économie de surveillance, que Christophe Masutti, chercheur en histoire des sciences et de la technique, définit dans son livre « Affaires privées » comme une vision du monde où les individus sont réduits à des données exploitables et influençables à des fins marchandes. Parallèlement, émergent les safe cities. Ce sont des villes intelligentes ultra connectées où la surveillance passe par des drones, des caméras intelligentes, des données publiques sur les réseaux sociaux ou encore de la reconnaissance faciale. Par exemple à Marseille, avec le projet de l'Observatoire de la Tranquillité qui prévoit une plateforme regroupant ces flux pour renforcer la sécurité dans l'espace public. Ces technologies, d'abord destinées uniquement à des fins d'optimisation de la gestion urbaine, sont finalement utilisées à des fins policières. L'information devient ainsi un outil stratégique pour les gouvernements. Selon Schulenburg et Peters dans The Algorithmic Society, les données servent à prédire la criminalité, fournir des services publics, allouer les ressources ou anticiper les récidives. Ainsi, la surveillance de masse tend à s'intensifier. Qu'elles viennent des GAFAM ou des États, toujours plus de données sont collectées afin de surveiller, voire contrôler, le comportement des citoyens.
Journaliste et animateur radio italien, Simone Pierani est rédacteur en chef du quotidien Il Manifesto. Il a longtemps vécu en Chine, de 2006 à 2014, et a consacré aux transformations politiques de ce pays plusieurs ouvrages, parmi lesquels Red My Roar, un essai sorti en 2021 aux éditions CNF. Ce livre est le récit de son cheminement de pensée en tant qu'observateur et décrit la manière dont la Chine est en train d'accumuler des positions de domination dans le XXIe siècle. La surveillance d'État est le thème évoqué dans la sous-partie que nous allons étudier, intitulée « Laisserons-nous nos données aux entreprises américaines ou à l'État chinois ?» Tout commence en juin 2013. Edward Snowden, ancien employé de la CIA et NSA, révèle l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques au monde entier. Cette affaire, véritable tournant dans l'histoire du numérique, révèle l'ampleur de l'utilisation du big data au grand public. En Chine, notamment, Pirani note l'émergence d'une prise de conscience concernant la protection de la vie privée. Néanmoins, en Occident, comme en Chine, l'utilisation des données personnelles est désormais devenue la norme d'un capitalisme de plateforme omniprésent. Selon l'essayiste canadien Nick Srnicek, dans Le Philonomiste, ce modèle de société s'appuie sur, je cite, « les entreprises dont les modèles de gestion reposent sur les technologies de l'information, les données et Internet, et qui, je cite à nouveau, siphonnent nos données et s'en servent pour constituer d'énormes monopoles ».
En 2018, par exemple, l'entreprise Cambridge Analytica a utilisé des informations provenant de plus de 50 millions de profils Facebook afin d'influencer les votes pour la présidence américaine. La même année en Chine, l'application de messagerie WeChat était accusée de divulguer d'importantes quantités de données au gouvernement. Ces données auraient été ensuite utilisées par la police afin de détecter des individus au comportement suspect. Pirani ajoute également que WeChat aurait servi la campagne de censure du Parti communiste en développant des algorithmes de blocage de contenu complexes. Un cas similaire est celui de l'entreprise américaine Yahoo, qui a livré en 2007 des documents au gouvernement chinois conduisant à l'arrestation de journalistes qui contournaient la censure politique de leur pays. Dans un monde bipolaire où les États-Unis et la Chine se font face afin d'asseoir leur domination, les deux pays l'ont bien compris. Les données sont la véritable richesse de notre époque, écrit Pirani. D'après son article, le modèle chinois de gestion de données tend vers l'intégration de safe cities dans le cadre d'une forte surveillance étatique. Cette notion vue en cours reflète la censure politique systématique à laquelle font face les citoyens chinois sur WeChat, ainsi que l'utilisation de cette application à des fins policières. Cette dérive autoritaire rappelle celle décrite dans 1984 d'Orwell, où l'État exerce une surveillance constante sur les individus, symbolisée par la célèbre formule « Big Brother is watching you ». Écoutons à ce sujet un extrait audio de l'intervention sur France Culture du professeur de philosophie et éditeur Jean-Jacques Rosa en juin 2019. Il évoque la manière dont un gouvernement peut, par le contrôle du langage, asservir la pensée d'une population.
Transformer le langage pour mieux contrôler les esprits. Telle pourrait être la doctrine du gouvernement totalitaire, imaginée par George Orwell dans son roman 1984. Dans ce roman d'anticipation terrifiant, les autorités imposent une nouvelle langue à la population. Un langage appauvri et vidé de tout esprit critique.
Il n'y a plus de distinction entre les mots et les verbes. On déshabille les mots de toutes les significations secondaires. C'est presque un monosyllabe, un objet. Et puis un deuxième volet qui est encore plus intéressant, qui est, alors cette fois-ci, l'invention d'un certain nombre de mots que Orwell appelle des « blanket words », des mots couverture. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mots très généraux, comme par exemple « crime sink », pensée criminelle, ou « old sink », vieille pensée, qui vont recouvrir tout un ensemble de concepts anciens, de manière à pouvoir les étouffer et les remplacer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la censure. La censure, ça consiste simplement à interdire à quelqu'un de prononcer un mot. Le but, là, c'est de vous enlever cette pensée de la tête, de vous enlever cette possibilité même de la penser.
On pourrait penser que cette surveillance étatique n'existe que dans les pays autoritaires comme la Chine. Or, comme le souligne Pirani, Snowden a révélé dès 2013 que les États-Unis pratiquaient une politique de données qui comporte des similitudes. Dans un contexte de guerre technologique, l'utilisation des données d'une population à des fins marketing ou politiques, aux dépens du consentement des citoyens, est en effet une pratique commune aux deux puissances mondiales. Pirani précise que, du côté américain, ce sont les GAFAM qui captent et exploitent ces données, tandis qu'en Chine, c'est directement l'État qui centralise les données. Mais cette distinction est plus subtile. Plusieurs entreprises américaines transmettent ces données aux autorités. Par exemple, Yahoo a déjà collaboré avec le gouvernement chinois en livrant des informations personnelles, participant ainsi à la répression d'un régime autoritaire, remettant en question la liberté d'expression.
Les GAFAM disposent aujourd'hui d'un volume considérable de données, à la fois publiques et privées, leur permettant de prédire et d'influencer les goûts, opinions et comportements de leurs utilisateurs. Bien que des politiques de confidentialité existent, la majorité des usagers n'ont ni connaissance ni réelle maîtrise, ce qui confère aux GAFAM une capacité de surveillance et de contrôle des masses supérieure à celle des États. En cela, ces entreprises deviennent de puissants outils d'information, notamment pour des pays démocratiques comme les États-Unis. Ainsi, que la surveillance soit exercée par un gouvernement centralisé comme en Chine ou par des géants technologiques comme les GAFAM aux États-Unis, certaines logiques de surveillance sont similaires et présentent un risque démocratique. Le scandale Cambridge Analytica le montre bien, l'exploitation des données personnelles peut servir à manipuler l'opinion publique et influencer les élections. Cela représente donc un danger non négligeable pour les démocraties occidentales, dont les modèles se calquent sur ceux des deux puissances mondiales et où les intérêts politiques et marketing se mélangent.
Merci pour cette intervention et pour nous avoir sensibilisés sur le lien entre les données personnelles et la démocratie. Les libertés offertes par la démocratie sont une première condition pour pouvoir nous permettre de protéger nos données personnelles. Et il faut aussi que nos données personnelles soient protégées pour pouvoir exercer nos droits en tant que citoyens dans une démocratie. On continue sur une deuxième intervention. Comment l'IA réduit le monde aux stéréotypes ? Léna et Alice, vous avez la parole.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Léna.
Et moi Alice.
Et nous allons vous parler de l'intelligence artificielle et plus particulièrement les stéréotypes qu'elle renforce.
Si on vous demande d'imaginer une personne mexicaine, à quoi pensez-vous ? Un sombrero ? Un poncho ? Un homme bronzé ? Si c'est le cas, sachez que l'intelligence artificielle a répondu la même chose. Sur 100 images générées, tout le monde a un sombrero et un poncho coloré. 96 sont des hommes de plus de 60 ans. Alors qu'en réalité, les Mexicains sont des gens comme vous et moi. Ils portent des jeans, des t-shirts, des robes et surtout, pas forcément un sombrero. Et surprise, il y a plus de 4% de femmes. Ce petit exemple met en lumière comment l'IA se nourrit de nos propres stéréotypes pour générer un contenu universel faux.
Pour qu'on puisse se comprendre tout au long de cette émission, revenons d'abord sur les bases théoriques. La neutralité des technologies. Ces notions théoriques viennent de notre cours « Technique anthropologiquement constructive » de la matière WE1, dispensée et écrite par Stéphane Croza. Les technologies ont toujours été au sein de notre évolution et développement. Elles ont modifié nos rapports aux autres, nos rapports à notre environnement, à la nature, allant même jusqu'à révolutionner notre vision du monde. Mais selon vous, la technique est-elle plutôt positive, négative ou neutre ? C'est une question complexe qui est née bien avant l'arrivée du numérique. Jason Oxman, directeur du groupe de lobbying Information Technology Industry Council, a voulu illustrer simplement ce conflit grâce à l'argument du couteau dans le journal Le Monde en février 2023. C'est simple. Prenez un couteau. Avec ce couteau, vous pouvez tout à fait beurrer votre tartine comme tuer quelqu'un. Sur le principe, c'est votre usage qui définit la finalité. Le couteau est donc une invention neutre car c'est vous qui aurez choisi de tuer ou non quelqu'un.
Cependant, Pierre Stenner refute cet argument en se basant sur trois points dans Des couteaux et des machines à propos de l'IA, publié en 2023. Premier point, les concepteurs vont toujours présenter le côté solutionniste et innovateur de leur technique. Si leur invention a bien marché, ils vont s'attribuer tous les mérites, car c'est évidemment prévu depuis le début. Au contraire, si la technique a des répercussions négatives, les inventeurs vont mettre la faute sur les utilisateurs qui ont mal utilisé leur technique. C'est donc jamais de leur faute ou celle de leur invention.
Deuxième point, les ingénieurs ont une certaine vision du monde. Ils ont des valeurs qu'ils considèrent comme les bonnes et qu'ils vont chercher à répandre. Leur technologie est donc le reflet de leur pensée et ne peut ainsi pas être neutre.
Troisième et dernier point, la technique reconfigure notre rapport au monde. Reprenez votre couteau. Dans l'histoire, il n'a pas seulement servi à nous protéger et à simplifier la chasse, il a aussi ouvert de nouvelles possibilités. L'homme est devenu plus puissant et a pu tuer des animaux plus gros et plus rapides. Autrement dit, nous sommes montés dans la chaîne alimentaire.
Vous l'avez sûrement compris, malgré toute la volonté du monde, la technique ne peut pas être neutre. La technique change les manières de penser, la société, l'économie et tout ce qui en découle. Mais l'IA dans tout ça, quelle est sa place ?
Eh bien, l'IA n'est pas particulièrement neutre. Laissez-nous nous parler de l'article dans lequel nous nous basons. How AI reduces the world to stereotypes, soit en français, comment l'IA réduit le monde aux stéréotypes, écrit par la journaliste Victoria Turk et publié dans le média Rest of the World le 10 novembre 2023. Dans cet article, elle décide d'aborder l'influence de l'IA sur notre vision du monde.
Ces dernières années, que ce soit dans les pubs, les réseaux ou même dans la rue, on voit une représentation de plus en plus de groupes différents. Alors qu'on avance sur ces combats, l'IA est en train de nous faire reculer. Les stéréotypes qu'on avait à l'époque sont ressortis par l'IA qui se base sur une vision du monde simplifiée, notamment autour des États-Unis. Pour appuyer ses propos, Victoria Turk va utiliser l'outil Midjourney, une intelligence artificielle américaine qui génère des images. Elle va lui demander de relier des concepts génériques comme une personne, une maison, une rue ou encore une assiette avec un pays. Donc on a la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et le Nigeria. Dans l'étude réalisée, 100 images ont été analysées, soit 3000 images en tout, avec parfois des experts pour comprendre les tendances de l'IA.
Nous allons donc vous détailler un de ces exemples. La journaliste a demandé 100 images à Midjourney d'une personne nigérienne. Le Nigeria est un pays où il y a plus de 300 groupes ethniques, plus de 500 langues parlées et plus de centaines de cultures avec leurs propres traditions. Ils ont toute une façon de vivre, de manger et de s'habiller propre à leur communauté. Par exemple, certains portent traditionnellement des rayures noires et d'autres et blanches, d'autres ont un bonnet rouge ou d'autres encore ont une technique très spécifique pour attacher les cheveux d'une femme. Et pourtant, si vous demandez à Midjourney le résultat, les résultats sont tous similaires. Les vêtements semblent représenter une tenue traditionnelle, mais manquent cruellement de spécificité. Tout est généralisé dans une seule tenue, rouge, orange, avec des gros bijoux.
On retrouve sur 100 images 29 femmes, 58 tenues rouge ou orange, 45 qui portent de gros bijoux et 14 qui sont représentées sur un fond de rue. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Pour la demande d'une personne indienne, on retrouve sur 100 images 99 qui représentent un homme, dont 93 qui semblent avoir plus de 60 ans.
Dans la suite de l'étude, la journaliste met en avant le fait que l'IA est conçue pour imiter ce qui précède et non créer de la diversité, supprimer les valeurs aberrantes pour se rapprocher de la moyenne. Cela renforce les préjugés déjà existants dans le monde. En effet, le sexisme est notamment concerné. On voit que les femmes, souvent plus jeunes, sont sous-représentées. Elles ont tendance à avoir une peau claire pour respecter les anciens critères de beauté.
On peut aussi parler du racisme qui est évoqué dans l'article. Par exemple, lorsqu'ils ont demandé à l'IA Stable Diffusion de générer des images d'une personne pauvre, les personnes représentées semblaient souvent être noires. Mais lorsqu'ils ont demandé une personne blanche pauvre pour tenter de s'opposer à ce stéréotype, de nombreuses personnes semblaient toujours être noires. De plus, l'IA fait la gloire de l'Occident, en particulier des États-Unis. C'est le pays de référence lorsque le pays n'est pas précisé dans la question. Et de plus, sur 100 images qui représentent un personnage américain, tous sont jeunes, avec un drapeau américain en fond. En conséquence, les pays qui ont mis plus de temps à se développer sont représentés comme délabrés. Les maisons en Chine ou au Nigeria sont pleines de fissures et semblent prêtes à s'écrouler.
Aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'IA dans notre quotidien, notamment les jeunes générations, qui nous rendent de plus en plus dépendants. C'est comme la technique influe l'humain et qu'il n'y a pas d'humain sans technique. On est forcément influencé par l'IA et ses biais. L'ampleur et la rapidité de l'IA signifient qu'elle pourrait renforcer considérablement les préjugés existants. Les opinions stéréotypées sur certains groupes peuvent directement se traduire par un impact négatif sur les opportunités de vie importantes dont ils bénéficient. Les images du reste du monde peuvent avoir un effet profond sur la façon dont nous percevons nos environnements et ses habitats, en particulier lorsqu'il s'agit de cultures que nous avons nous-mêmes même pas connues.
Sauf que l'inverse est aussi vrai. Il n'y a pas de technique sans humain, car nous la créons. C'est ce que propose la thèse TAC, développée dans les laboratoires COSTECH de l'UTC, qui se base sur deux points. D'abord, les inventions techniques sont le résultat d'une évolution autonome qui échappe à l'intention humaine. Puis, la technique n'est pas le produit de l'intelligence humaine, c'est elle qui la rend possible. Ainsi, ce n'est pas l'homme qui s'adapte à son milieu par la technique, mais plutôt l'objet technique qui s'adapte à son milieu.
En appliquant cette thèse à notre étude, nous pouvons mettre en avant que si l'IA est raciste, c'est que l'humain l'est avant tout. L'article met en avant le fait que l'IA est basée sur nos données. Si l'on demande à un humain d'annoter ses images ou de générer le portrait d'un Mexicain, il le fera sûrement de la même façon que l'IA. Mais sur quoi l'IA se base pour créer autant de contenus stéréotypés? Nous allons écouter un extrait de podcast « Comment l'IA alimente les pires stéréotypes » de Baksik en novembre 2023.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Malheureusement, vous y attendez, c'est quand même assez évident, nous sommes tous vecteurs de ces représentations et nos biais réels deviennent les biais des IA. En prenant des photos en vacances, en réalisant des reportages, en créant des films, des dessins, des peintures, en tournant des publicités, en postant des offres d'emploi en ligne, en fait, les milliards d'images qu'il y a, qu'on poste partout sur Internet, sont collectées et répertoriées dans ces catalogues de données sur lesquels les IA, qui sont elles-mêmes souvent créées par des hommes blancs anglophones, s'appuient pour créer dessus leur modèle et produire des contenus où la nuance, la diversité n'a pas vraiment sa place.
Nous venons d'entendre Baksik dans leur podcast « Comment l'IA améliore les pires stéréotypes ». Grâce à cet extrait, nous pouvons comprendre que l'IA se base sur ce qu'on met en avant sur Internet. Nos propres stéréotypes sont reflétés dans les résultats de l'IA. C'est pour ça que, comme tout outil et comme toute technique, même si elle semble pratique, il faut la manipuler avec précaution et garder un esprit critique. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous avoir sensibilisé sur l'utilisation de l'IA et ses stéréotypes.
Merci pour cette intervention. Garder un esprit critique vis-à-vis des technologies et de l'intelligence artificielle est justement un des enseignements du cours WE1 à l'UTC. Votre intervention illustre bien l'intérêt de cette vigilance. C'était « Laisserons-nous nos données aux entreprises américaines ou à l'État chinois ?» et « Comment l'IA réduit le monde aux stéréotypes ?» avec Gaspard, Aurélie, Léna et Alice. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour une prochaine émission. Au revoir à tous.